Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah.
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, déjà 17h sur les ondes de CKIA, et puis c'est évidemment l'heure de puissance maximale, comme à tous les lundis de chaque semaine maintenant, vous nous connaissez, puis vous avez sûrement hâte de pouvoir savoir exactement ce qu'il en est de tout ce monde extraordinaire du jeu. C'est le moment évidemment pour tout le monde de faire sortir eh bien l'enfant qui sommeille en vous, le petit rêveur, vous savez, celui qui jouait avant et puis qui... peut-être un petit peu oublié de jouer de temps en temps. Puis ça tombe bien parce que des grands enfants, eh bien on en a beaucoup aujourd'hui autour de la table. Et je suis toujours accompagné de notre groupe, notre gang de joueurs qui s'arrêtent de jouer en fait juste pendant une heure. C'est tout ce qu'ils font. Pendant une heure, ils arrêtent de jouer. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de jeu. Ça tombe bien. Hein. Puis eh bien, aujourd'hui, donc j'ai avec moi Sylvita. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sébastien.
Tu vas nous parler de...
Bon, je vais vous faire une petite revue du jeu Spiderwick Chronicles.
Vincent Langlois.
Oui, bonjour.
Salut.
Alors moi, aujourd'hui, je vais parler du jeu Uncharted Drake's Fortune sur la PS3.
Et puis, évidemment, c'est comme à tous les mois maintenant, on va rejoindre notre Fraulein Evil, notre démon des jeux de plateau, celle qui se rend un petit peu partout dans le monde et en particulier au Québec pour aller regarder tout ce qui se passe. Et surtout là, cette semaine, elle est allée à Jeu-au-Bout qui se trouvait en plein milieu de nulle part, c'est-à-dire dans les Laurentides. Ça, c'est milieu de nulle part, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, on va la rejoindre à Montréal tout à l'heure, donc restez avec nous. Et puis, on va aussi rejoindre Jean Normandin qui va nous parler d'un jeu que vous avez tous joué. C'est une obligation parce qu'on y passe tous, on n'a pas le choix. Il s'agit du jeu de risque, mais avant tout, évidemment, comme à chaque semaine, nous allons recevoir Mathieu. Bonjour Mathieu Place.
Bonjour.
Et Mathieu qui nous parle de l'actualité ludique.
Oui, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la dernière semaine, question nouvelle de jeux vidéo. En fait, dans la dernière semaine, on a entendu parler beaucoup de Guitar Hero et de Rock Band qui vont devoir faire face en cours, vont devoir faire face à Gibson, le célèbre fabricant de guitares électriques. Des guitares électriques qui sont utilisées entre autres par Eric Clapton, B.B. King et Slash. L'histoire, c'est que Gibson avait demandé des droits pour une invention. Comment on appelle ça quand on demande un brevet? Voilà. Alors, ils avaient demandé un brevet pour une invention qui consistait à faire une simulation vidéo d'un spectacle rock. Alors, j'imagine que ça devait utiliser les guitares Gibson à ce moment-là. Mais toujours est-il que Guitar Hero et par la suite Rock Band lui ont damé le pion et ont décidé de faire une espèce de simulation dans ce même genre-là. Sauf que Gibson a attendu 3-4 ans. Ça fait plusieurs années que Rock Band et Guitar Hero sont sortis. Alors, ça fait longtemps que Gibson aurait dû se réveiller.
Non, mais ça n'a pas assez marché à leur goût pendant toute cette période-là, ce qui fait qu'ils ont attendu tout simplement qu'ils fassent beaucoup d'argent.
Voilà. Alors, on a la version cynique de la chose qui doit être...
C'est une évidence, c'est sûr. Ça marche tellement bien, Guitar Hero et puis Rock Band. C'est tellement incroyable que c'est sûr que maintenant, c'est le moment de... de faire jouer les avocats.
Ben, probablement. En plus que Guitar Hero a été acheté par MTV récemment et que c'est Electronic Arts qui s'occupe de Rock Band. Alors, c'est deux grandes compagnies qui s'en occupent. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et puis, j'imagine que Gibson a décidé de faire une petite passe d'argent. Un gosse essaye, comme on dit.
Ouais,
alors, je pense
que
c'est un cas ici.
Puis, à quand finalement ceux qui vont les attaquer pour les deux baguettes de la batterie de Rock Band aussi?
Ah, peut-être. Hein,
oui, je ne sais plus qu'est-ce qui est sur les deux baguettes, mais je suis sûr qu'ils auront besoin de plus d'argent encore. Comme deuxième nouvelle.
En deuxième nouvelle, eh bien, on a la suite des aventures de la compagnie Take-Two. Alors, Take-Two a reçu des offres d'achat de Electronic Arts. En fait, c'était des offres d'achat auprès de ceux qui possédaient des parts de la compagnie de Take-Two. Mais toujours est-il que Take-Two, c'est ceux qui s'occupent de Grand Theft Auto. C'est ça leur plus gros morceau, leur plus gros vendeur. Et puis là, évidemment, encore une histoire d'argent. Grand Theft Auto va sortir le 29 avril prochain. Alors, on suppose que les parts de Take-Two vont exploser. Ça va devenir une valeur sûre pour les investisseurs. Alors, ce qui arrive, c'est qu'Electronic Arts essaie d'acheter les parts de Take-Two avant que Grand Theft Auto sorte et puis que ça explose pour faire une petite passe d'argent. Mais Take-Two, évidemment, ont vu Electronic Arts aller et ils ont décidé de peut-être négocier ce genre d'entente-là, mais après que Grand Theft Auto 4 sorte, alors le 29 avril, alors le temps que les poussières tombent, qu'on voit la véritable ampleur du phénomène et puis que les actions aient augmenté de manière suffisante, à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir parler peut-être de transactions. Alors, Electronic Arts essaie d'ajouter Take-Two à son empire.
Oui, c'est ce qui arrive le plus souvent, finalement, quand un business commence à devenir énorme. Toutes tes nouvelles ressemblent finalement à des nouvelles financières et
oui.
économiques. C'est passionnant.
Exactement.
On a changé complètement de volet. Finalement, Puissance Maximale est devenue un volet totalement économique et financier.
Eh bien, la dernière nouvelle, par contre, ne concerne pas la finance. Il s'agit de Ben Eck qui commence. En fait, c'est un individu qui travaille au Wisconsin. C'est un designer graphique comme moi. Alors, j'ai une certaine sympathie pour ce personnage-là. Eh bien, ce gars-là, il a 32 ans et depuis 8 ans, il patente. C'est ça son hobby. Il patente des vieilles consoles Atari, par exemple, Atari 2600. Tout ce qui se fait Xbox, toutes les consoles qui sont sorties sur le marché et il les transforme. Par exemple, Atari 2600, ce qu'il a fait avec ça, c'est qu'il a transformé cette console-là en machine portable. Alors, au lieu d'avoir votre machine que vous pluguez après sur votre téléviseur, eh bien, vous pouvez vous promener avec tous les jeux de Atari 2600. Et puis, il paraît que ces produits sont tellement professionnels, ils ont l'air de véritables consoles. C'est pas la petite affaire patentée avec des fils partout, là. C'est vraiment quelque chose qui a l'air tout à fait professionnel. Et puis, vous pouvez lui faire des demandes spéciales. On a une personne qui a demandé à ce qu'on on attache sa machine Xbox 360 à sa machine à ramer pour faire des exercices, de manière à ce qu'il puisse jouer au Uno avec ses amis sur le net. Alors, tout ça pour jouer au Uno pendant qu'il va ramer. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir assez d'argent pour faire ça, mais le gars trouvait ça tellement étrange qu'il a décidé de réaliser la machine. D'une manière un petit peu plus utile pour l'humanité, eh bien, il a décidé aussi de faire une manette de Xbox qui peut être utilisée avec seulement une main. C'était un soldat qui avait eu un accident terrible en Irak, qui avait perdu une main, mais qui voulait continuer à jouer avec ses jeux vidéo. Alors, il a demandé à notre ami Ben Eck de faire une manette à seulement une main et il l'a réalisé. Alors ça se peut que ça entre sur le marché. Alors pour ceux qui ont quand même leurs deux mains, vous allez pouvoir quand même siroter votre bière et jouer avec votre jeu vidéo. C'est extraordinaire.
Ça pourrait être très utile également pour celui qui veut faire du rameur et jouer avec sa Xbox.
Oui.
Faire du rameur seulement avec deux mains, c'est assez difficile de jouer à Uno, même si c'est un jeu assez facile.
C'est vrai, hein? Avec quoi est-ce qu'il joue? Avec des clignements d'yeux, avec la parole, je ne sais pas, là, mais en tout cas,
avec les rames.
Ça existe. Avec les rames, oui, c'est ça.
Oui, tout à fait.
En tout cas, une autre peut-être nouvelle, tout simplement, c'est la sortie du fanzine, ne l'oublions pas.
Oui.
Fanzine de puissance maximale qui sort cette semaine. Tu en es encore, pour en tout cas, pour pour une semaine de plus. Disons que tu es anciennement le rédacteur en chef, Mathieu.
Oui, en fait, c'est ça, je vais être remplacé pour la rédaction, mais je m'occupe toujours du visuel, des illustrations et de la mise en page.
Puis ce mois-ci, en fait, dans Puissance Maximale, très rapidement, la thématique, c'est le mal.
Le mal.
Voilà, et non le mal, mais le mal.
Encore que ça s'adresse beaucoup au mal.
Oui, effectivement, il y a une fascination certaine du mal par le mal, mais en fait, on a quelques articles de réflexion par rapport à ça, beaucoup de réflexions sur le domaine des jeux de rôle et de sa relation avec le mal.
Puis évidemment, pour en savoir plus, vous avez juste à aller pianoter sur votre ordinateur, c'est www.puissancemaximale.com. Vous allez pouvoir voir le prochain fanzine, il devrait sortir très très bientôt, puis la version papier va être disponible dans tous les bons magasins de la région de Québec. Vous pouvez aller regarder la liste des distributeurs sur le site internet. Donc, surtout, restez à l'affût. Le fanzine, évidemment, est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit de nos jours? Notre fanzine.
Pas grand-chose, hein? L'amitié.
Et encore.
On pourrait faire un joli débat sur cette thématique-là. En tout cas, juste le temps de partir le nouveau générique, le tout nouveau générique de notre ami Vincent Langlois, qui devrait partir d'ici quelques secondes. The Eye of Judgment. Puis évidemment, à chaque fois qu'on entend ce générique-là, eh bien, je sens que toutes les maisons d'édition, en particulier les maisons d'édition de jeux vidéo, tremblent sur leurs chaises en se demandant qu'est-ce que va pouvoir dire Vincent Langlois de leur jeu. Ouh. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un jeu en particulier. Il s'agit de...
Uncharted Drake's Fortune, qui est sur le PS3. C'est une exclusivité du PS3 parce que c'est Sony qui l'a développé. Pas qu'il l'a développé, mais qu'il l'a édité. Et c'est développé par Naughty Dog, la même compagnie qui a fait les jeux Jack. Je ne sais pas si vous connaissez Jack sur PS2, qui étaient des petits jeux d'aventure et d'action un peu bonbons, mais quand même intéressants. Donc, Drake's Fortune, c'est un jeu d'action et d'aventure qui se joue à la troisième personne et qui se détaille à 59,99. C'est un jeu quand même qui est sorti à la mi-novembre. Que j'avais en ma possession depuis longtemps et que je n'ai pas joué avant depuis quelques semaines. Alors, en général, ce qu'est le jeu, c'est l'histoire de Nathan Drake, qui est un aventurier des temps modernes. Ce gars-là prétend être un descendant de Francis Drake, qui est un explorateur anglais du 16e siècle. Et après la découverte du supposé cercueil de son ancêtre, il décide de partir à la recherche du trésor de l'Eldorado.
Oh oui, quelle thématique. Et d'ailleurs, il me semble que c'est issu d'un film mémorable de Kurt Douglas.
Je pense, oui, c'est tout à fait, oui.
Et mémorable de Kurt Douglas, ça ne va pas du tout ensemble, mais bon.
Quand même. L'histoire, en général, est très bonne. Ça nous amène dans les îles du Pacifique, au travers des vestiges des différentes civilisations anciennes. Et bien sûr, on tente de mettre la main sur ce fameux trésor.
Dis-moi, pour avoir vu les images très rapidement, il me semble que ça fait très BD, l'ensemble. C'est-tu le rendu général?
Oui, quand même. Oui, c'est BD, mais c'est à la fois très réaliste. Okay. Les graphiques sont... Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Au niveau de la PS3, là, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu présentement.
À ce point-là?
Ah oui, les animations sont excellentes, les couleurs sont vives. Les déplacements de la caméra à la troisième personne, c'est très fluide. Il n'y a pas vraiment de parties coupées ou quoi que ce soit. L'ambiance musicale est très bonne aussi, une ambiance qui est un petit peu plus dramatique. Dans les moments tendus, on doit affronter nos ennemis, puis un petit peu plus relax ou naturel là, dans le temps où on se promène, où on fait nos recherches. Donc
finalement, graphiquement, visuellement, ambiance, tout ça, c'est super.
Graphiquement,
bien.
Moi, je donnerais un 10 sur 10 sur ce jeu-là. C'est incroyable. Moi, en plus, je le joue sur un téléviseur qui n'est même pas haute définition.
Mais dans quel monde vis-tu?
Dans un monde, en tout cas, on n'en parlera pas. Et c'est ça. Et au niveau de la jouabilité, ben, très intéressant. C'est un jeu qui mélange un peu les jeux. Je ne sais pas si vous connaissez Gears of War et Tomb Raider ou bien Prince of Persia.
C'est quoi? C'est la bière de la guerre, c'est ça que tu as dit?
Pardon?
Beers of War?
Non, c'est Gears of War.
Oh, excuse-moi, j'ai vraiment mal compris. Non,
j'aurais jamais dit ça ici. Mais c'est ça, oui. Donc, Prince of Persia ou Tomb Raider, tout le monde qui a joué à ça savent que, bon, on doit sauter par-dessus différents obstacles, se percher après des falaises. C'est à peu près le même style de jeu. Et quand on parle de Gears of War, c'est qu'on doit affronter des ennemis et on peut se cacher. avec encore la caméra de la troisième personne, mais plus rapprochée sur notre joueur. Et là, on vise avec nos différentes armes, et ce qui permet également de passer d'une cache à l'autre en posant sur les boutons et en évitant de se faire prendre par les ennemis, parce que si on reste trop longtemps à l'endroit où on attend les ennemis, bien, l'intelligence artificielle du jeu est assez développée pour faire que les différents ennemis nous repèrent et viennent nous tirer d'un bord puis de l'autre.
Donc, finalement, une très bonne jouabilité aussi.
Excellente jouabilité, vraiment. Là, pour le style de jeu, on ne s'ennuie pas. Les boutons, en fin de compte, on utilise vraiment la manette de PS3 comme on l'a.
Et je sens que, comme à chaque semaine, tu vas encore nous dire que ce jeu est exceptionnel et se mérite une note finale extraordinaire aussi.
Je dois t'avouer que j'aurais donné un 9 sur 10 à ce jeu-là, mais malheureusement...
Ah non, c'est vrai.
À cause de la longueur du jeu,
oui.
Le temps que ça prend pour le jouer, je descendrai ma cote d'un et ce sera un 8, parce que après 74% du jeu de fait, j'en suis rendu à 6 heures de jeu. Ce
qui c'est déjà trop.
Mais pour moi, ce n'est pas assez. Alors, un total de 8 sur 10, quand même, c'est un jeu, je pense, qu'il faut avoir dans sa collection.
Bon, et puis évidemment, comme j'ai sur mon ordinateur absolument toutes les trames sonores possibles et imaginables, j'ai aussi celle de ce merveilleux jeu que tu viens de nous présenter. Il s'agit de Uncharted Drake's Fortune. Et ça se joue sur la PS3. Quelle est la maison d'édition?
L'édition, c'est Sony Computer Entertainment.
Et puis pendant qu'on écoute justement la trame sonore, ça nous permet de faire la transition jusqu'à Sylvie qui piaffe d'impatience de nous présenter le jeu qu'elle a essayé. C'est donc au tour de Sylvie. Bonjour Sylvie Tap, comment vas-tu?
Ça va bien, et toi-même?
Oui, ça va très très bien. Dis-moi, aujourd'hui, tu nous présentes, en fait, pour tous ceux qui ont pu aller voir au cinéma, le fameux film qui s'appelle Spiderwick Chronicle, qui est une espèce de, je dirais, moi j'appellerais ça un film pour adolescents. Mm-hmm. Une sorte de film pour adolescents, un petit
peu
speedguerrien. Quoi?
Que je n'ai pas vu, je dois confesser.
Mais c'est pas grave.
Donc, je n'ai aucun billet.
C'est encore mieux. Comme ça, tu as pu aborder le jeu de manière totalement autonome. C'est encore mieux. Mais je peux t'assurer que le film que moi, j'ai eu le plaisir de voir était tout ce qu'il y a de plus, je dirais, anodin, mais sympathique quand même. Puis là, tu nous présentes donc le jeu qui est issu de ce film.
Oui, que je qualifierais des mêmes qualificatifs. Donc, d'un quand même très intéressant. Mais c'est un jeu... que je qualifierais, pour adolescent, presque enfantin à la limite, là,
oui,
mais qui a quand même
fait.
Été très agréable à jouer. Donc, moi, comme je vous dis, je n'ai pas visionné le film en question, mais l'histoire semble être un petit peu basée sur la même histoire, au risque de me répéter. En fait, c'est la famille qui vient d'aménager dans leur fameuse maison de Spiderwick. Il y a trois enfants, c'est-à-dire deux frères et une sœur, donc Simon, Jared et Mallory, et leur mère qui ont aménagé dans cette maison-là. Et puis, je vous parle toujours du jeu, là, donc il y a sûrement des similitudes avec le film. Et tout à coup, bon, avec certains bruits dans les murs, il y a un des enfants qui fait la connaissance d'un personnage un petit peu particulier qui peut être très sympathique, mais quand il se fâche, qu'il change un petit peu d'allure, je devrais dire.
Donc finalement, on est très, très proche, en effet, du scénario
exact.
De base.
Oui. Donc j'imagine, qui s'appelle Timblejack the Brownie. Et Timblejack, bon, il va leur donner un petit coup de main tout au long du jeu, finalement. Alors,
mais il ne faut pas l'énerver.
Il ne faut pas l'énerver, sinon il devient un petit peu moins sympathique. Donc, à partir de ce point-là, les enfants vont faire la découverte de personnages autour d'eux très magiques, si on veut, des elfes, etc. Et tout au long du jeu, tu dois... il y a des objectifs à rencontrer. Ce sont tous des objectifs qui sont très, très simples à réaliser. C'est agréable. Tu dois quand même collectionner tant de chacun des petits êtres magiques que tu attrapes avec un petit filet genre à papillon. Et puis, quand tu en attrapes un, tu dois le dessiner. Puis, quand tu l'as dessiné, il te donne certains pouvoirs particuliers. Enfin, c'est comme ça tout au long du jeu. Et tu as la possibilité, durant le jeu, de changer de personnage. Donc, tu es indépendamment un ou l'autre des frères ou la sœur. Puis, chacun a son habileté en particulier, dont un qui est très habile au bat de baseball. L'autre, c'est l'épée, etc. Et tout au long du jeu, tu as l'opportunité de changer de personnage comme ça. C'est à la troisième personne. Très, graphiquement très bien fait. D'ailleurs, entre chacun des niveaux, tu as des scènes du film. C'est très joli à voir, puis ça te resitue un petit peu là, dans l'histoire. Fait certains liens même, d'ailleurs, qui te permettent de comprendre un petit peu plus ce que tu fais dans le jeu. Cependant, les jeux de caméra, moi, j'ai joué avec une manette, même si c'est un jeu PC, parce que ça s'applique beaucoup mieux pour ce genre de jeu-là, un peu comme Prince of Persia, mais ma manette a beau être bien, bien bonne. Le jeu de caméra est vraiment atroce. Là. Ça me faisait penser à les anciens jeux 3D de Mario Bros. Alors, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je te dirais même dans les moments les plus « hot », entre guillemets, je jouais d'une main avec la manette et de l'autre avec le clavier pour être capable de m'en sortir dans le sens du monde. Là. Donc, pour moi, ce n'est pas un point positif, c'est sûr. Il y a aussi cette histoire de jeu qui ne dure pas très longtemps parce que, bon, moi, je te dirais que j'ai à 46 % du jeu, je suis arrivée avec le gros monstre de la fin, là, puis j'avais peut-être 4 heures de jouer. Ensuite, tu peux continuer à jouer, faire des petits objectifs, continuer à te promener allègrement dans le jeu, mais bon, l'essentiel, le plus drôle le plus gros de ta mission est terminé.
Finalement, il semble que ce soit généralement un problème, ça, cette histoire, finalement, de temps dans les jeux vidéo.
Ben, définitivement.
En fait, nos testeurs sont trop bons en jeux vidéo.
Mais moi, là, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que les jeux vidéo doivent absolument être long pour être agréable? Moi, personnellement, c'est complètement l'inverse. J'ai aucun plaisir à passer 20 heures devant un jeu. Puis, en fait, ça me tanne.
Je voudrais juste ouvrir et terminer en même temps en disant que mon point à moi, et bon, le point que je vais soulever puis laisser peut-être la parole à mes collègues, c'est quand tu paies maintenant un jeu à 79 $ sur les tablettes, tu aimerais ça pouvoir jouer un petit peu plus que 4 à 6 heures. Là. Je trouve ça un petit peu frustrant.
Je dirais que c'est un argument massu. Effectivement, j'ai rien à répondre là-dessus. Au moins une mission de base et puis un monde à explorer, je ne saurais pas comment dire, mais quand on prend Grand Theft Auto, qui est un jeu immense, incroyable, on se dit c'est possible. Alors les autres devraient
suivre
l'exemple.
C'est possible de le faire. Puis il y a encore des producteurs de jeux ou des compagnies du genre Nintendo. Là. Je regarde les jeux de Nintendo sur la Wii que je joue, là, les Mario Galaxy, les Zelda. C'est encore des jeux là, qui durent des 25, 30, parfois même 45, 60 heures.
Wow. Et que tu finis.
Que je finis, mais ce ne sont pas des jeux que je vais jouer pendant une semaine puis j'y fais les 60 heures dans la semaine. Là. C'est des jeux auxquels je vais revenir à toutes les semaines. Ça va peut-être me prendre 2-3 mois terminé. Mais...
Parce que moi, je vous avouerais que pour avoir réessayé Final Fantasy, là, c'est sûr et certain que, par exemple, un long jeu comme ça, je ne suis pas capable. Moi, je m'arrête à peu près au bout de 7-8 heures et puis je laisse faire. Là,
moi non plus, je ne suis pas un fan de ça.
Même, mais... là, c'est... Puis pareil pour, par exemple, les gros jeux multijoueurs qui n'ont pas de fin thématiquement. Là, je veux dire qu'ils n'ont absolument aucune fin là non plus. Là, ça devient complètement absurde. Moi, j'aime beaucoup le concept court, bref, très agréable, convivial la plupart du temps. Et puis ça, c'est mon type de jeu finalement. Mm.
Oui, salut l'équipe.
C'est salut Christian, bonjour. Hey,
bonjour.
Bonjour. Il vient d'apparaître.
Donc oui, je me permets d'intervenir ici parce que moi, c'est un peu le but de mon intervention, là, parler de ce débat-là, donc la longueur des jeux. Et moi, je ferai un lien, c'est que les longs jeux, souvent, ce sont des jeux de rôle. Tu mentionnais donc les jeux multijoueurs. On a mentionné Grand Theft Auto qui est un peu entre les deux. Donc, les jeux de rôle, traditionnellement, sont longs, mais ça va de soi parce que on développe un personnage, et on veut une histoire, on raconte une histoire. Et c'est ça qui manque, et de plus en plus de développeurs mentionnent ça. On veut des histoires, pas juste des beaux graphiques. « Wow, j'ai un bel environnement, mais j'ai travaillé, ça m'a coûté 20 millions pour produire ce bel effet de boucan. Je m'en fous-tu de la boucan? Moi, je veux une belle histoire, puis je veux des personnages intéressants.
» Oui, évidemment, ça dépend de tes goûts en jeu, mais je parle au nom des amateurs de first-person shooter, c'est un peu la même chose. Quand on compare maintenant, par exemple, avec des jeux comme Half-Life, Dieu sait, j'en ai parlé, et j'adore ce jeu-là, mais regarde, maintenant, il est disponible en section que tu vas quand même payer 30-40 $. Puis la dernière fois, et les deux dernières fois, j'ai eu le malheur, la tristesse de me retrouver à la fin par surprise après 3-4 heures de jeu. C'est inconcevable.
C'est décevant, mais moi, pour venir les first-person shooters, si on prend un jeu comme Call of Duty 4, qui nous donne une aventure d'à peu près 7 heures, 8 heures quand on fait la campagne générale, mais il nous offre l'option d'aller sur le online et de jouer avec des joueurs, de monter nos différents niveaux, nos différentes classes de combattants. Mm-hmm. Et là, c'est un extra au jeu. Donc, c'est un jeu qui vaut quand même 59$. On a joué avec pendant 6 à 8 heures sur la campagne générale, mais il nous permet d'autres heures de plaisir en ligne.
Ça, tout à fait. Mais je veux dire, si on n'est pas un vrai geek et puis qu'on ne passe pas sa vie devant un jeu d'ordinateur, par exemple, est-ce que vraiment avoir un jeu qui dure 60 heures ou même 40 heures, est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, c'est la question que je me pose. Et puis réellement, je joue à beaucoup d'autres jeux. Puis oui, peut-être que même je fais plus en parler que d'y jouer, je dois bien l'avouer souvent.
Oui, bien là, tu touches un point majeur parce que dans le fond, les joueurs ont vieilli. OK? Donc, je suis début trentaine, là. Ben non, milieu de la trentaine. Bref, mais donc je représente à peu près le joueur moyen là. Tu sais, c'est apparent, mais en tout cas bref oui, ok, donc et finalement c'est qu'au début, si on remonte dans nos années de secondaire là, on en avait-tu du temps, hein? On n'avait pas d'argent mais on en avait du temps, ouais. Quand on, à notre anniversaire on recevait un jeu puis une console, waouh, là on s'installait puis on en avait du temps, fait qu'on voulait des jeux que, on voulait que ça dure longtemps, tandis qu'aujourd'hui souvent les gens ont des familles, ils n'ont pas beaucoup de temps consacré, ils ont deux, trois, ils peuvent voler une petite demi-heure ici et là. Donc, c'est parfait. Ils veulent une grande expérience, mais ils s'en foutent que ça dure longtemps et ils veulent voir la fin.
Moi, juste pour terminer avec la question de Sébastien, qu'un jeu dure 60 heures, bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'heures, mais il y a une différence entre un jeu de 8 heures qu'on paye 59$, puis peut-être ajouter un 5 heures de plus pour une douzaine ou une quinzaine d'heures, je pense que ça serait numéro un. Mais les jeux qui durent plusieurs heures, moi, je joue encore à Oblivion, Elder Scrolls. Je suis rendu à 100 heures passées et j'ai encore du fun. Là.
Exactement. Oblivion, c'est un de mes jeux préférés. Puis, je suis tout à fait d'accord avec cette option-là. C'est qu'il y a une limite entre les deux. Là,
tout à fait. Mais est-ce que c'est indiqué sur le jeu, la durée du jeu?
Non. Normalement,
non.
C'est...
C'est voit vraiment par la bizarre critique, quand même. En fait, ça pourrait être un point tout à fait simple pour les joueurs, les petits joueurs ou ceux qui ont envie finalement de vivre une expérience rapide,
sûr,
versus ceux qui ont envie de vivre une expérience très très longue.
Mais il faudrait trouver une mesure, un standard. Il faudrait trouver un joueur moyen, oui, qui permet de.
Parce que moi aussi, ça me fait penser aux jeux de plateau. Au jeu de plateau, c'est automatiquement indiqué la durée moyenne d'un jeu.
Moi, je vais t'avouer franchement, le jeu que j'ai commenté aujourd'hui, si j'avais su que c'était 8 heures, je l'aurais pas acheté. Sauf que j'ai eu du plaisir quand même à jouer.
Eh oui, c'est vrai.
Mais il y a un phénomène, c'est la location de jeux. C'est là où ça peut être intéressant, surtout avec les consoles. Mm-hmm. Un jeu, tu sais, tu vas avoir des critiques sur Internet. Ah, il y a une durée de vie de 5 heures, 8 heures, 10 heures. Ah, je le loue une fin de semaine.
Mais à quand une ludothèque? À quand une vraie ludothèque? Ah ben, c'est vrai qu'on en a déjà une sur la rive sud, remarque.
Oui, la rive sud, toujours en avance.
Ben oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup. Je pense qu'on va être obligé de décourter, par exemple, ce débat qui est passionnant. S'il y a du monde qui est intéressé à poursuivre ce débat, n'hésitez pas soit à nous téléphoner immédiatement ou alors tout simplement nous rejoindre sur Internet en allant sur le site de Puissance Maximale. Et puis, vous allez pouvoir débattre avec nous avec grand plaisir de cette question passionnante et ô combien importante. Il s'agit ici de savoir quelle est la durée optimale d'un jeu pour le plaisir. Et merci beaucoup. On va tout de suite rester... Restez en onde avec nous parce que juste après la petite pause musicale, on va aller rencontrer notre némésis des jeux de plateau. Il s'agit de Chantal Campagna qui va nous parler de Jeux au bout, un événement qui vient juste de se passer ce week-end. Puis comme à chaque mois aussi, elle va nous parler des sorties de jeux de plateau. Donc juste le temps pour nous de passer de l'autre côté de la musique et on se rejoint tout de suite. Allez, salut.
to love. There's no more need for thoughts or books, just a mouth and eyes. The dead connection spread, the buzz and crackle in my head. Memorize your
Francky.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Et non, contrairement à ce que je vous avais annoncé, ce n'est pas avec Chantal Campagna que nous allons nous entretenir maintenant. Mais ouh, mon Dieu, je vois que nous avons encore un léger problème de... On va essayer autre chose. Oui, est-ce que tu nous reçois, Jean?
Oui, je vois.
Oui, donc comme je le disais, c'est pas avec Chantal Campagna, parce que Chantal vient juste de changer de voix, vous avez vu, et elle a même quasiment changé de sexe. On va s'entretenir en fait aujourd'hui avec Jean Normandin. Jean Normandin, tu es, je pense que tu t'occupes d'un club de jeux de risque, c'est ça?
Je suis un des membres fondateurs de ce club.
Oui, donc toi tu es situé où exactement, Jean?
À la fois à Trois-Rivières et à Plessisville.
Puis vous comptez à peu près combien de membres dans votre club de jeux de risque?
Il y a présentement deux clubs de risque au Québec. Il y a les Conquérants qui sont dans la région de Montréal et la région des Laurentides qui sont à peu près une vingtaine. Nous, qui est notre nom, c'est le Cercle des Rescapés. On est une trentaine de joueurs.
Puis bah, dis-moi, le jeu de risque, tout le monde le connaît. En tout cas, tout le monde a l'impression de le connaître. C'est ça qui est avantageux, hein. C'est vraiment un jeu qui est quasiment universellement joué. Je pense que tout le monde a au moins passé une fois dans sa vie sur ce jeu-là. Mais il me semble quand même que c'est pas... Je dirais que c'est un jeu, oui, classique, mais qui a quand même a eu beaucoup de développements différents.
Oui, surtout depuis les dernières années, si on parle entre autres des jeux italiens, qui sont des formes de tanks en plastique, là, qui rappellent peut-être pour certains les G.I. Joe. Là. Des jeux qui sont très aimés et très recherchés, mais ça vient d'Italie.
Mais il n'y a pas uniquement, je veux dire, pour ce qui est de risque en tant que tel, je pense qu'il y a eu d'autres développements. Il n'y a pas eu que le jeu de risque classique, il y a eu aussi d'autres types de risques. Il y a eu risque dans l'espace ou quelque chose comme ça, 2210?
Oui, mais ça, ces jeux-là, nous, on les recherche pas tellement. Il y a eu les Star Wars, il y a eu le risque Monopoly. Le risque a été mélangé à toutes les sauces à peu près, là.
Puis après tant de temps que tu passes, est-ce que c'est le seul jeu que tu joues quand même pas, j'espère?
Non. Ensuite de ça, je joue à la balle, au hockey, d'autres jeux, mais c'est pas juste le risque.
Donc toujours avec autant de passion, tu vas jouer au risque et puis affronter tes adversaires. Est-ce que vous avez des tournois qui se déroulent chaque année?
Oui, il y a présentement 4 tournois au Québec. Un à Val-David qui est le 3 mai. Il y en a un à Champlain, c'est sur la rive nord à 45 minutes de Québec, au Café Foinfou de Champlain. Puis il y a le tournoi provincial qu'on appelle, c'est le tournoi ouvert à tout l'ensemble du Québec, qui a lieu aussi au mois de septembre à Champlain.
Donc beaucoup de passionnés qui se retrouvent et puis qui vont s'affronter. J'imagine que l'ambiance est quand même conviviale, il ne s'agit pas uniquement de se faire mal.
Non, c'est un jeu qui joue sur table avec des dés et des petits pions, là, ça fait que si on se fait mal, là, c'est pas vraiment là, la place.
Puis dis-moi, est-ce que malgré le fait que Risk est un jeu quand même assez agressif, est-ce que quand même les joueurs restent fair play puis l'ambiance est bonne pendant vos rencontres?
Oui, l'ambiance est toujours bonne parce qu'on a des gens qui supervisent tout l'ensemble de la rencontre. Là. Les règlements sont établis d'avance. Puis en plus de ça, on a un forum de joueurs qui s'appelle Joueurs de Risk du Québec. Toute l'information est glissée là-dessus.
Donc, très, très facile de vous rejoindre. Est-ce que tu pourrais peut-être rappeler l'adresse exacte de ce forum-là, si elle existe?
C'est Joueurs de risque du Québec. N'importe qui cherche ça, qui tape ça dans un moteur de recherche sur Internet ou qui cherche Joueurs de risque du Québec tombe sur notre site.
Bon, ben c'est vraiment passionnant. Vous avez combien de membres, tu m'avais dit tout à l'heure?
Une trentaine de membres.
Une trentaine de membres. Est-ce que c'est en expansion? Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement parmi les jeunes aussi?
Excusez, j'ai pas compris le dernier mot.
Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement de plus en plus? Est-ce que tu sens que les jeunes commencent à aussi embarquer dans le phénomène?
Oui, parce que tu as regardé, nous autres, on est basé sur à peu près 3 générations, là, qui part de début de la 50aine, qui descend jusqu'à la 20aine, et les plus jeunes aussi, mais étant donné qu'on tient ça dans les lieux alcoolisés, on est obligé de à 18 ans et plus, hein?
C'est sûr, j'imagine, là, évidemment, là, on a parlé d'alcool, et puis toute l'équipe a une question à te poser.
Oui.
Oui, mais ça n'a pas rapport à l'alcool. Mais qu'est-ce que vous pensez de la prochaine, de la mouture un peu expérimentale, là, Black Ops, dont on parle beaucoup sur Internet? Là?
J'en suis pas au courant, monsieur.
OK, je sais que c'est une nouvelle, ça annonce un nouveau risque avec des nouvelles règles là, qui vont sortir avec des capitales, tout ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça, je pense qu'on l'attend pour à l'automne prochain.
Non, je ne suis pas au courant, parce que je sais qu'il devrait sortir prochainement. Ça va être le 50e anniversaire des Jeux américains, c'est-à-dire qui ont été conçus en 59. Ça veut dire qu'en 2009, je serais supposé d'avoir une version 50e anniversaire, mais votre jeu que vous me nommez...
Oui. Ben, en fait, c'était pour tester les règles, les nouvelles règles du jeu dont vous parlez effectivement d'anniversaire. Donc, en tout cas, je sais qu'il y a seulement 1000 exemplaires en circulation, donc c'est pas surprenant, là, c'est très peu connu.
Ben regardez, nous, on a fait venir, on fêtait l'année passée notre 10e anniversaire du club officiel, là, après 12 ans. Un 10e anniversaire après 12 ans, il faut le faire. Mm-hmm. Et on a fait venir à peu près une centaine de jeux, entre 80 et 100 jeux à travers le monde. Quand je dis à travers le monde, c'est Angleterre, Italie, Allemagne, France, États-Unis, Québec, Canada.
Mais est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui jouent à Risk? Parce qu'en fait, on le trouve partout, Risk. Hein. C'est vraiment l'incontournable. C'est un peu comme Monopoly. Là. C'est deux jeux qu'on a du mal à imaginer. Mais ça a été vendu à des millions, à des milliards d'exemplaires, ce jeu-là.
Oui, moi, je compare ça au monde qui ont fait du ski ou qui ont joué au hockey. Soit tu as joué au Risk ou tu as joué au Monopoly. Ça se résume à peu près à ça. Là.
Puis, ça ressemble à quoi un joueur de Risk?
De risque, ça là, mettons, on va faire une moyenne d'âge, là, c'est là, entre 20 et 50, faites la moyenne que vous voulez. Et c'est un gars qui aime le plaisir, festif un peu, et qui est intéressé d'aller compétitionner autre que dans sa ligne de beau-frère. Là,
ah, ça, mm-hmm. ça donne vraiment le goût d'aller vous rejoindre. En tout cas, moi, pour être allé sur ton site Internet, je peux te dire que j'ai trouvé ça très, très sympathique, très agréable. Il y a beaucoup de photos, en plus, c'est très imagé. Puis on voit aussi toutes les collections, puis tous les types de risques qui sont jamais sortis. Vous êtes des collectionneurs dans l'âme aussi, hein?
Oui, oui, ça, c'est sûr que quand je fais venir un jeu ou une coupe, mettons comme d'Italie, les gars les voient, puis hey, j'en veux un, celui-là, j'en veux un, celui-là. Ça se faisait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on en a fait venir autant, là.
Mais en tout cas, Jean Normandin, on va juste rappeler que tu appartiens, eh bien, à la ligue qui s'appelle... Est-ce que tu pourrais nous redonner le nom de la ligue?
Parc des Rescapés.
Puis, il suffit juste de taper sur Internet, sur Monsieur Google, comme à chaque fois...
Joueur de risque du Québec.
Bon, ben c'est génial. Merci beaucoup, Jean. Et puis, bonne soirée à vous. Et puis, surtout, n'hésitez pas à jouer autour d'une bonne bière, parce que j'ai l'impression que c'est ça le vrai intérêt de jouer à risque.
La base du secret.
Excuse-moi, on t'a vraiment pas entendu. Est-ce que tu pourrais répéter?
C'est la base du secret.
D'accord. Donc, on va y penser sérieusement. Et puis, encore merci. Puis, bonne soirée à toi. Et puis, surtout, bonne game. Donc, pour ce qui nous concerne, parce que nous, on va retourner en onde aussi, eh bien, on va essayer de nouveau de rejoindre Chantal. Je vous avouerai que je n'ai pas le bon numéro de téléphone, mais ça se dit pas en onde, parce que tous les problèmes techniques n'existent pas. Puis, comme on n'a pas de problème technique et que tout va bien, et puis que cette semaine encore, on est super heureux de pouvoir vous parler, eh bien, on va faire tirer un jeu. C'est tellement une belle occupation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Oui. Puis aujourd'hui, on va faire tirer... on a le choix entre la Cosa Nostra, qui est l'excellent jeu qu'on a déjà présenté de Synergeux, une maison d'édition de Montréal, ou alors Qui l'eût cru de Cranium. Qu'est-ce que vous préférez, vous?
Au choix du gagnant.
Au choix du gagnant, oui.
OK, alors donc vous aurez même le choix du choix. Vous aurez le choix du choix, c'est extraordinaire. En appelant tout simplement à la station, c'est-à-dire je vais rappeler le numéro dans quelques secondes que je ne connais pas par cœur. Il s'agit donc du 529-90-26 et vous pourrez vous gagner le prix, c'est-à-dire de la Cosa Nostra ou de Qui l'eût cru de Cranium, si vous appelez dans les quelques minutes qui suivent, c'est-à-dire juste après, ben pendant la toune qui va jouer et qui va me permettre en même temps d'aller téléphoner à Chantal. Donc à tout de suite, surtout téléphonez maintenant. Donc, je rappelle le numéro de téléphone 529-9026 et je vous dis à tout de suite avec Chantal, je l'espère. En tout cas, on se retrouve après ça. Allez, salut.
Non, je n'ai pas, nous, le profil. Sûr qu'on n'est pas nés tous égaux. Ma vie ne tient pas qu'à un fil. J'ai des mousquetons plein le dos. Je ne serai jamais le sujet d'une biographie et je le regrette. Je n'ai pas eu mauvaise fortune dans le passé, faut que je vive avec. Sûr que je manque d'intérêt, puisque je ne suis pas orpheline, puisque je n'ai pas été trouvée étant petite dans les épines. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Mais bon sang, j'ai rien à pleurer. Penses-tu qu'ils auraient fait un effort? Ils n'ont même pas divorcé. Je suis pas rodée contre le mauvais sort. Non, je suis pas née au bon endroit pour faire du courage mon blason. Je peux inventer, mais ça compte pas. Ça me fait pas le pied d'une cendrillon. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez ça avec mon père. J'ai jamais été prise en otage. J'ai pas de maquis dans la peau. Et mon bateau n'a jamais fait naufrage. Du coup, je sais pas faire les radeaux. Au lieu de tout ça, c'est dans les choux. Je me suis plantée hier matin. Si c'est pas triste, ça chez nous. La mode n'est vraiment pas un refrain. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez ça avec la caméra.
Je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Enfin.
Bon, pendant que j'essaye encore une fois de plus de rejoindre Chantal, je rappelle à tous nos auditeurs que, eh bien, je remercie en fait Linda pour avoir gagné le fameux jeu. Malheureusement, elle ne nous a pas dit quel jeu elle voulait.
Nous allons devoir trancher.
Donc, c'est nous qui allons décider entre la Cosa Nostra ou alors qui l'eût cru, lequel des deux jeux elle va pouvoir remporter. Et puis d'ici là, bien, je vous laisse en tête à tête avec mes quatre joyeux compères qui ont beaucoup de choses à dire.
En fait, on va parler d'une nouvelle qui n'en est pas une, en fait. C'est bon, des chroniqueurs sur Internet que j'ai lus avec plaisir. Et puis, ils faisaient la nomenclature des jeux qui concernaient la guerre. En fait, leur commentaire concernait le fait que les jeux de guerre, les jeux qui ont des rapports à l'histoire, à la politique, eh bien, quand on faisait face à des méchants en tant que tels, c'était ou bien des nazis, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord que les nazis, ce sont des méchants, ou encore des, on prenait place dans des guerres qui étaient vraiment très, très, très éloignées, qui n'avaient plus vraiment d'impact sur notre politique aujourd'hui. Alors, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on pourrait faire un jeu sur, par exemple, sur l'Irak ou sur des événements qui sont un peu plus récents et qui ne concernent pas la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est tout ce qu'on a. Alors, je trouve que ce serait peut-être intéressant.
Le dernier jeu de Call of Duty, je ne sais pas si tu as joué, Sylvie, le Call of Duty 4, il y a justement une action qui se passe au Moyen-Orient, dans les pays de l'ex-URSS. Donc, on a touché un peu à ce côté-là, mais c'est vrai, en fin de compte, que c'est souvent, comme tu disais, de l'histoire ancienne ou des conflits qui sont vraiment, vraiment passés.
Oui. Dans le cas de Call of Duty 4, c'est vrai que c'est intéressant quand c'est dans le Moyen-Orient, on voit ça à la télévision, alors j'imagine que les joueurs voulaient peut-être essayer cet univers-là, mais en même temps, les personnages, il n'y a pas vraiment de nom, il n'y a pas vraiment de personne est nommée, c'est vraiment des...
C'est-à-dire que le milieu du jeu est maintenant un peu plus censuré. Hein? Je veux dire, on fait beaucoup attention à ce qui est véhiculé, puis si on s'approche un petit peu plus des événements qui sont récents, on touche à des sujets qui sont un petit peu plus délicats, puis qui sont peut-être le point de vue peut-être pas généralisé comparativement. On a dit, par exemple, comme tu le disais, c'est vraiment de façon planétaire. Tout le monde est d'accord que les nazis, ce sont les méchants. Donc, c'est facile de dire, comme les zombies, on va les utiliser dans les jeux.
En parlant de nazis, justement, devinez qui on a en onde.
Oh!
Pas de nazis.
Well, I'm evil.
Exactement. On est en fait directement, eh bien, on a réussi à l'avoir. Il s'agit de Chantal Campagna, qui est aussi notre Fraulein Evil. Bonjour, Chantal.
Bonjour!
Oui, et ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir parce qu'en fait, cette fin de semaine, ça a été encore extrêmement mouvementé pour toi. Hein?
Absolument.
Oui, tu es partie en fait aller visiter le jeu, le festival qui s'appelle Jeux au bout, qui est en fait une réunion de 3 jours sur lesquels vous avez joué à des jeux de plateau et puis vous avez présenté énormément de jeux de plateau aussi avec le Valet de cœur, j'imagine?
Non, en fait, nous on est allés surtout pour jouer, Jean-Jean et moi, l'équipe de la mort. Écumer la réserve des jeux de plateau, mais évidemment, nous sommes allés faire de l'espionnage industriel pour voir ce qui se tramait derrière les nouveautés qui ont été présentées là-bas.
Dis-moi juste, pour faire un retour très très rapide de Jeux au bout, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde?
Il y avait beaucoup de monde, hein. Ça a été un succès monstre. Il y a eu à peu près 130 personnes qui ont couché sur place, alors on imagine quand même. C'était, on doit le souligner, une organisation sans faute. Il n'y a eu aucun accroc, aucun grain de sable dans la machine. On n'a rien remarqué. On s'est fait mener d'une activité à l'autre tout au long de la fin de semaine. Ça a été absolument génial. Et on doit admirer, féliciter et remercier toute l'équipe d'organisation des Jeux au bout.
Waouh, ça a vraiment l'air d'être le fun. Il faut dire que Jeux au bout, c'est un petit peu situé en plein milieu de nulle part, hein, si je me souviens bien.
Tu te souviens très bien. Ça se passe à Jersey, en fait. C'est même à banlieue, en périphérie de Jersey. C'est dans un camp de vacances. Donc, c'est situé dans un site enchanteur près d'un lac, évidemment, qui était recouvert de neige. C'est au milieu de nulle part, effectivement. C'est à peu près 1 heure de Montréal. Mais les gens se sont rendus là-bas de bon cœur. Et puis, le fait qu'on puisse coucher sur place facilite énormément les choses.
J'imagine. Puis toi, j'imagine aussi que tu t'es amusé, mais à mourir, parce que de toute façon, tu ne fais que ça. T'amuser avec Jaune-Jaune, là. En fait, je me demande des fois si tu fais autre chose.
Pardon? J'ai pas compris.
Je me demande des fois si tu fais autre chose que t'amuser.
Ah ben, non, pas vraiment. C'est pas grave, je vais aller au paradis quand même.
C'est correct. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu as vu de vraiment passionnant au niveau des nouveautés ou des primeurs qui ont été présentées là-bas?
Écoute, je vais te dire, Sébastien Pochon, qui nous a offert la merveilleuse Hispahan, était au rendez-vous. En fait, il n'était pas là lui-même, mais 2 de ses jeux ont fait un tabac là-bas. Il y avait Jamaica et aussi Animalia, qui ont été édités par GameWorks, ce qui suscite beaucoup de curiosité sur Internet depuis qu'on les a vus à SN, parce que c'était des jeux qui ont été commandés par des compagnies, mais qui ont eu assez de succès pour être réédités et offerts à un public plus large. Donc, il y a un éditeur présentement québécois, éditeur-distributeur, qui est en négociation avec la compagnie pour les importer au Québec et nous les offrir pour qu'on puisse en profiter aussi. Donc, toutes les copies d'Animalia et de Jamaïca ont été jouées toute la fin de semaine. Il y avait toujours 1 ou 2 tables qui s'amusait avec ces jeux. Ça a été vraiment la fin de semaine de M. Pochon.
Oui, en plus, c'est des excellents jeux, ça, Hispan. Ça a connu vraiment un succès extrême et énorme.
Oui, oui. Hispan est excellent. Jamaica est un matériel absolument magnifique, une mécanique hyper accessible. Ça va être un jeu de famille superbe à offrir. Des bateaux de pirates, des trésors, des batailles, des dés. Qu'est-ce qui peut ne pas plaire?
Je t'avouerai que, voyant la mine de tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, je peux t'assurer que tu viens d'allumer beaucoup de lumière dans les yeux.
Mais tant mieux!
Puis dis-moi, qu'est-ce que tu as vu d'autre à part Hispane et puis Jamaïca?
Bah, écoute, il y avait des copies en allemand de Agricola qui se sont promenées allègrement. Donc, c'est des copies qui étaient en allemand, mais avec les règles en français. Probablement que c'est M. Pierre Zendor qui nous l'avait offert, qui nous l'avait amené, évidemment. Agricola, on le souligne, ça va sortir en français et en anglais vers la fin du mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, ou peut-être au mois de mai, c'est ce qu'il te plaît. Mais c'est ça, en anglais avec Z-Man Games, en français avec History Games. Donc, Agricola était très, très populaire aussi. Et en fait, c'était impossible pratiquement de le jouer parce qu'il était toujours occupé. Ensuite, L'Âge de pierre, présenté par Philosophia, aussi a aussi très, très, très bien roulé. Évidemment, Philosophia présentait leur prochain bébé qui s'appelle Chinatown, qui est une réimpression d'un jeu d'Aléa, qui est un jeu de négociation qui avait eu beaucoup de succès à sa première impression, qui a été complètement retravaillé au niveau graphique. Il est absolument magnifique et il a eu beaucoup de popularité aussi. Ensuite, quoi d'autre? Ben, il y avait Scorpion masqué qui était là. Donc, Christian, qui présentait le nouveau jeu de Benoît Michaud, celui qui nous avait offert Panikozu. Alors, son nouveau jeu s'appelle Grimpe et c'est une espèce de twister pour les doigts. C'est vraiment superbe. On y joue debout, on fait de l'escalade avec les doigts. Il est vraiment très, très beau. Et d'ailleurs, si vous avez regardé dans le journal de Montréal de dimanche, il y avait une page complète dédiée au jeu au bout à Chelsea. Et sur la photo principale, on peut voir Christian jouer à Grimpe avec Marc Beaudoin, le créateur de Castle, Benoît Michaud, qui a créé Panikozu. Il y avait aussi Michel Truchon qui a créé Destination Far West et évidemment Christian Lemay, l'auteur de Je te gage. Donc, sur 6 personnes sur la photo, 4 sont des créateurs de jeux édités quand même. Belle moyenne!
Ah oui, c'est extraordinaire, surtout qu'on en a reçu beaucoup à l'émission là, et puis je t'avouerai qu'on continue à en recevoir. En parlant de ça, est-ce que tu connais Synergeux avec Cosa Nostra?
Synergeux, Cananastra, oui, ben on fait affaire avec eux, oui, mais je ne les ai pas vus au jeu au bout.
Non, est-ce que tu as déjà joué à leur jeu?
Non, je n'ai pas joué à Cananastra.
Eh bien, je peux t'assurer qu'il va falloir que tu remédies à ce manque, à cette lacune, parce que le jeu est excellent.
Ah oui?
Oui, vraiment. En tout cas, on a fait un test la semaine dernière et je peux t'assurer qu'il va sûrement te plaire parce que c'est un jeu où on finit avec que des ennemis.
Mais en fait, moi, je sais. Sûr que ça fait longtemps que je veux l'essayer, mais Jaune a un petit peu peur. La mafia, c'est quelque chose qui l'énerve un peu. Ça lui donne des petits frissons, puis à chaque fois, il refuse. Mais bon, on va le pousser un peu, puis on va l'essayer la prochaine fois.
Alors, je suis sûr que Jaune peut sûrement se faire un... Ben, disons que tu vas pouvoir le raisonner une bonne fois pour toutes, et puis que tu vas pouvoir l'essayer. Et je te remercie beaucoup, Chantal, pour tes impressions de jeu au bout, et puis surtout pour les dernières sorties de jeux de plateau. On rappelle que tu étais toute la fin de semaine, le 4, 5, 6 avril, au jeu au bout dans les Laurentides, en plein milieu de nulle part, et puis que tu as pu justement essayer tout ce qui se fait de jeux de plateau québécois. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? C'est quoi le prochain événement, s'il y en a un?
Écoute, la prochaine grosse sortie, c'est encore une fois un Sébastien Pochon. Ça s'appelle Metropolis. C'est une production de History Games. Il est absolument magnifique. C'est un jeu d'encan avec du placement de tuiles, un peu dans la même lignée que Kélus, Amitis. Il est absolument superbe. On a vraiment très, 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 très hâte de le voir arriver. Ensuite, il faut souligner l'arrivée de Tribune, un jeu qui va être édité par Fantasy Flight. Alors, Tribune, c'est un jeu, encore une fois, d'encan, de contrôle de territoire et aussi avec des cartes. Il est absolument superbe. Ça se passe dans le temps des Romains. C'est vraiment un jeu qui est très, très attendu. Ensuite, il faut souligner l'arrivée des Sept Blasons, un jeu d'asynchrone. Asynchrone, une toute petite compagnie française qui nous ont offert un jeu de levée avec un côté hyper chien. C'est vraiment superbe. Et il faut aussi souligner qu'au jeu au bout, on a fait la passation des pouvoirs. On a remis à Michel, un des organisateurs des Journées ludiques de Québec, le symbole ludique officiel du circuit des événements ludiques du Québec. Donc, il a reçu le flambeau ludique qui sera présent à la fin de semaine de jeu de Québec le 7 et le 8 juin.
Et qu'est-ce qu'en pense le Tibet de ça?
Qu'en pense qui?
Le Tibet.
Le Tibet?
Ben oui, c'est le passage du flambeau. J'imagine que c'est sûrement une référence aux Jeux olympiques.
Le Tibet, ils sont en train d'assembler un prototype pour le prestigieux festival de jeux la fin de semaine musique de Québec, voyons.
Et je te remercie beaucoup, Chantal, et puis à très, très, très bientôt. Donc, on était en direct avec Chantal de Montréal, et puis, eh bien, comme à chaque semaine, c'est déjà quasiment l'heure de nous quitter, malheureusement. Et merci beaucoup à tous d'être venus, que ce soit Vincent Langlois, Sylvie Tapp, Christian Lacroix, et non pas Langlois, comme je le dis à chaque semaine, et Mathieu Place. Merci à tous d'être venus ici à l'émission. Une dernière petite nouvelle, peut-être pour vous tous, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais nous allons être l'émission est de plus en plus populaire, évidemment, chaque semaine. On reçoit des demandes un petit peu partout dans le monde. Et entre autres, maintenant, nous allons faire partie d'un web radio qui s'appelle abandonware-france.org sur lequel vous allez pouvoir nous retrouver aussi puisque nous allons être une des émissions phares de ce web radio. Donc, vous voyez que Puissance Maximum est en train de conquérir le monde.
Et puis,
on va vous souhaiter une excellente semaine. Surtout aussi, n'oubliez pas d'aller nous visiter sur Internet au www.puissancemaximale.com. Et évidemment, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller aussi sur lepetitpeuple.fr qui sont nos amis et nos collaborateurs et que nous apprécions et que nous saluons évidemment à tous. Je vous souhaite tous une très, très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous ai pas entendu, allez-y.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Wow. Little harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa, 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 whoa. You got a girlfriend?
Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D.